Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. En retenant le slogan « On est mal patron » pour faire la promotion de ses supermarchés, l'entreprise Lidl n'imaginait sans doute pas à quel point cette formule allait se retourner contre elle. Car depuis que l'émission de France 2 « Cache Investigation » s'est intéressée aux méthodes managériales de l'enseigne allemande, les mots prennent un tout autre sens. « On est mal patron », ce pourrait être le cri du cœur des salariés de Lidl adressé à leur direction. La diffusion de cette émission aura peut-être un effet vertueux sur la façon qu'a l'entreprise de traiter ses employés. Plutôt que de nier le problème, d'ailleurs, elle promet de faire des efforts, rejoignant ainsi, dans cet acte de contrition, une autre marque, elle aussi malmenée pour des raisons proches, Uber, dont le dernier spot de pub a dû être imaginé dans un confessionnal. Ainsi va la communication de crise aujourd'hui. Les entreprises sont vulnérables, enquête journalistique, force de frappe des réseaux sociaux ou une réputation, même solide, peut être remise en cause en quelques heures. Les réponses apportées sont souvent pleines de bonnes intentions. Ainsi Nutella, qui est accusée de favoriser la déforestation, communique désormais sur son huile de palme durable. Alors s'agit-il de promesses sans lendemain ou bien ces crises, lorsqu'elles portent sur des critiques fondées, ont-elles les vertus d'un électrochoc? Lidl, Uber, Nutella, etc. Y a-t-il de bons bad buzz? Et j'insiste sur le « etc. ». Il ne s'agit évidemment pas de se limiter à quelques-unes de ces marques. C'est en tout cas la question que nous allons poser ce soir, en essayant peut-être de le faire à travers quelques études de cas, pour peut-être adopter la façon dont vous faites cours en marketing. Benoît Elbrun, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'ESCP Europe, vous êtes consultant en stratégie de marque. Vous venez de publier aux éditions First, le marketing pour les nuls. Pour discuter avec vous, Luc Herman, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes journaliste, producteur associé de Première Ligne Télévision, une agence de télévision qui produit notamment Cache Investigation. Vous êtes par ailleurs co-réalisateur de la série documentaire Jeux d'influence, les stratèges de la communication. C'est dire si ces stratèges, vous les connaissez bien et vous connaissez celui qui est notre troisième invité. Il s'agit d'Arnaud Dupuis-Castérez. Bonsoir.
Bonsoir.
Président de Vaesolis Corporate, qui est un cabinet de conseil en stratégie d'information et gestion de crise. Vous travaillez avec de nombreuses entreprises. Vous travaillez avec Lidl, par exemple?
Non, on travaille pas avec Lidl. On travaille avec des entreprises, beaucoup d'entreprises, mais pas que des entreprises. Il y a aussi des individus, des fédérations, des associations, des ONG qui sont parfois soumises aux crises. Et sur nos missions de crise, on peut les accompagner.
C'est dommage parce que là, vous auriez eu un petit peu de travail hein, pour réagir à cette affaire. Enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler. En tout cas, ce documentaire qui a donc été diffusé fin septembre dans Cache Investigation sur France 2, Travaille ton univers impitoyable, Luc Herman. L'enquête portait notamment sur deux entreprises, et Lidl. Pourquoi vous aviez choisi d'ailleurs celle-là pour montrer la difficulté du monde du travail aujourd'hui?
Alors c'est un long travail. Donc nous, on est une petite agence de presse privée. On travaille directement pour le service public, beaucoup pour Arte. Et là, en collaboration avec Élise Lucet, qui elle est à France 2, on produit 5 ou 6 enquêtes par an. Ce sont des enquêtes qui durent un an. Là, c'est l'énorme travail de Sophie Le Gall, accompagnée d'Emmanuel Gagné, de Romain Verlet, où pendant un an, elle a lancé des filets vraiment très larges les 2-3 premiers mois pour travailler sur la souffrance au travail. Et petit à petit, en rencontrant de nombreuses victimes, en rencontrant des sociologues, en travaillant avec beaucoup, beaucoup de monde, elle a cerné 2 entreprises dans lesquelles on a découvert qu'il y a beaucoup de malheur au travail chez Lidl et notamment dans les magasins, mais aussi dans les centres de tri où certains salariés sont transformés à l'état de semi-machine. Et puis également, des difficultés important de management dans les centres d'appel de Free.
Et dans ce reportage, il y a notamment une séquence qui est devenue une séquence virale.
Moi, je voulais maintenant vous faire écouter un enregistrement. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. C'est un directeur régional de Lidl qui parle à l'un de ses responsables de magasin. Je vous laisse écouter.
Le magasin, il est mal tenu. Je te promets. Je te promets.
C'est un enregistrement audio.
Que toi et moi, ça va être toutes les semaines, on se verra. Okay. Toutes les semaines. Et ça va être à feu et à sang. C'est le magasin, ça va être à feu et à sang.
Il y a pas de soucis.
C'est à feu et à sang.
Je vais te convoquer à longueur de semaine.
Il n'y a pas de soucis.
Tu vas perdre une semaine. Tu vas perdre 1 à 2 semaines de salaire par mois parce que je te mettrai 6 jours de mise à pied à longueur de temps.
Okay.
Et tu vas mourir. Okay. Premier inventaire pourri. Me reste de procédure. Je te cartouche. C'est la guerre.
Ce que vous me montrez là, est un enregistrement qui est sorti d'un contexte. Je ne connais pas le contexte dans le détail. Non, mais attendez. En revanche, ce type de propos, ce type de ton est inacceptable. C'est clair et net. Qui que ce soit.
Est-ce que c'est du harcèlement ?
J'irai pas plus loin dans le commentaire. J'irai pas plus loin dans le commentaire.
Voilà, extrait donc de ce cache-investigation de fin septembre. D'un côté, Élise Lucet, la journaliste. De l'autre, un dirigeant de l'entreprise Lidl qui est visiblement un petit peu gêné par rapport à ce qu'il écoute. La séquence, elle est un peu plus longue. On peut revoir d'ailleurs l'ensemble du reportage actuellement sur le site de France 2. C'est un reportage qui a énormément fait parler. Est-ce que Benoît Helbrun et Arnaud Dupuis-Castiérès, on peut dire que pour cette enseigne de grande distribution, ça va être compliqué de se relever d'un tel buzz, si je peux me permettre cet anglicisme?
Moi, je pense qu'on peut toujours se relever d'un bad buzz. Ce qu'il faut, c'est de se rappeler que, en fait, une marque, c'est une relation de confiance avec son public, et qu'une marque, ce n'est pas qu'un être de discours. C'est-à-dire qu'une marque, elle est liée quand même à des pratiques, à des actions. Elle s'appuie sur une vision de son marché, sur une vision de la société, et elle a des comportements qui doivent être en cohérence avec ses valeurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'éthique. Hein. Autant je pense que le marché est amoral, c'est-à-dire qu'il est au-delà de la morale, autant je suis persuadé que les marques sont éthiques, c'est-à-dire qu'elles défendent des convictions. Et ces convictions vont s'incarner dans les pratiques. Donc je pense qu'effectivement, ce genre d'incident va pousser Lidl et ses concurrents à changer un certain nombre de pratiques dans le domaine du travail.
Parce que ça pourrait se traduire, Arnaud Dupuis-Castiérès, sur notamment le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, est-ce que la relation est toujours immédiate, justement, c'est-à-dire une situation de crise pour une entreprise qui est mise en cause et derrière des consommateurs qui font moins confiance?
Non, curieusement, elle n'est pas toujours immédiate. Elle est assez imprévisible, cette conséquence sur le chiffre d'affaires, pour répondre à ce que vous dites. Et en complément de ce que vous venez de dire, monsieur Helbrun, c'est que il y a aussi cette relation non pas à la marque mais à l'entreprise, ouais. C'est-à-dire du salarié à l'entreprise. Et donc les conséquences, ça peut être le chiffre d'affaires ou la perte de chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi la plus grande difficulté pour une entreprise à recruter. Or, paradoxalement, on en parle assez rarement, mais dans un pays où il y a beaucoup de chômeurs, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter, en tout cas les bons profils. Et donc il y a un marché des entreprises qui se battent pour recruter des bons profils. Et donc la réputation de l'entreprise, non plus de la marque B2C, vous parliez d'anglicisme, on va en utiliser, mais du corps de l'entreprise à son client direct, mais là de l'entreprise à son salarié, elle peut aussi perdre cet attrait-là, l'entreprise, et donc elle doit être vigilante. J'ajouterai un point, c'est que dans le fond, ce qui est important dans une crise, c'est d'en saisir les opportunités. Parce que dans toute crise, il y a une opportunité. Les Chinois, on va arrêter avec les anglicismes, on va faire du chinois maintenant. Les Chinois parlent, pour dire la crise, ils disent « wei ji », c'est deux idéogrammes, c'est « problème »,« danger » et opportunité. Donc dans tout danger, dans toute crise, il y a une opportunité pour les entreprises à se transformer et parfois à découvrir des comportements de salariés, petits chefs, qui ne sont pas acceptables au regard de l'éthique.
Est-ce que la première opportunité, elle ne s'offre pas d'abord à la concurrence, Benoît Helbrun? C'est-à-dire que si je suis par exemple Carrefour ou Auchan, je peux être tenté de communiquer, peut-être sans nommer directement Lidl, mais de dire bah voilà, chez Carrefour, nos salariés sont bien traités, ou bien est-ce qu'ils vaut mieux, dans ces cas-là, ne pas faire trop le malin, parce que ça peut aussi se retourner contre soi.
Moi, je pense qu'il faut faire profil bas. Moi, je pense surtout qu'on ne construit pas une marque avec de la communication. La communication, c'est un des leviers de construction d'une marque. Et effectivement, c'est important de distinguer les marques entreprises, qu'on appelle les marques corporate et les marques commerciales, les marques qui sont produits. En l'occurrence, Lidl, c'est une marque corporate et commerciale. Donc, c'est un cas très particulier. Moi, je pense au contraire que ça va faire bouger le secteur. Je pense qu'une marque a besoin de concurrence et que finalement c'est ensemble qu'on crée de la valeur. C'est-à-dire qu'on peut pas s'amuser à abuser des faiblesses d'un concurrent pour faire une campagne de communication. Je crois que ça ne porte pas ses fruits. Je voudrais rappeler quand même une chose, c'est qu'on a souvent tendance à dramatiser ces situations de marque et de communication de crise, mais finalement, qu'est-il arrivé après le Dieselgate à Volkswagen? Absolument rien, ils n'ont jamais vendu autant de voitures, d'accord? La marque Buffalo Grill ne devait pas se remettre de la crise de la vache folle. J'ai l'impression que c'est une marque qui prospère. Donc faire attention, il y a un discours médiatique qui est complètement déconnecté de la réalité commerciale.
Cela dit d'ailleurs, sur le Dieselgate, on a compris aussi peut-être pourquoi la concurrence ne capitalisait pas là-dessus, parce qu'on a vu à quel point tout le secteur automobile, ou quasiment tout le secteur, était touché, Arnaud Dupuis-Castiérès.
Oui, l'impact sur le chiffre d'affaires, je disais tout à l'heure, est difficile à mesurer, parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas d'entreprises qui ont été la cible ou la victime, ou qui étaient la cause d'ailleurs, de crises majeures, et qui n'ont pas connu d'impact. impacts. Il y a des entreprises qui ont connu des impacts beaucoup plus graves. Alors ça dure pas forcément très longtemps, mais enfin quand ça dure plusieurs mois, voire 2-3 ans, et que ça a un impact sur le chiffre d'affaires, ça a aussi des conséquences économiques importantes. Ce qui est fondamental dans ce point, c'est la relation de confiance dont on parle. Cette relation de confiance, elle ne se nourrit que d'exemplarité. Et donc, il faut que les entreprises soient exemplaires. Et un concurrent ne peut pas jouer à s'amuser des travers ou des problèmes que rencontre un de ses compétiteurs. Parce que c'est tout le secteur. Et dans le fond, Oscar Wilde le disait déjà, la pire des choses qui puisse arriver à un sujet, c'est qu'on n'en parle pas. Il y a une formule américaine qui est « any press is good press », donc n'importe quelle presse est une bonne presse, parce que dans le fond, le public, au bout d'un moment, oublie la relation entre le nom incriminé et la cause de l'incrimination.
Bon, bah, finalement, vous avez rendu service à l'idole, Luc Herrmann. Bon, sur la question, évidemment, c'est une remarque un peu ironique, sur la question de l'impact sur le secteur, alors j'ai bien compris à quel point il était peut-être nécessaire pour la concurrence de faire un peu profil bas. Ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi eu un impact sur les salariés de la grande distribution. Il y a eu quelques jours plus tard un assez long article dans Le Monde qui expliquait...
Une très belle enquête dans Le Monde, oui, et qui notamment ouvre son papier, démarre le papier par un salarié qui fait le même job de ce que nous avons montré dans la longue enquête de Cash Investigation, qui lui-même travaille chez Carrefour dans un grand centre de tri et de préparation de commandes. Et qui le démarrage du reportage du Monde est très émouvant, et où le salarié explique qu'il a montré le documentaire à ses enfants, à sa fille de 14 ans, qui a dit « Papa, c'est vraiment cela ton travail ?» et que l'homme s'est retrouvé en pleurs en pleine nuit pour en parler à son épouse en disant « Voilà, on ne peut pas subir de telles pressions sur des cadences. » Et il semblait dire que lui, c'est la même chose chez Carrefour.
Est-ce que vous attendiez justement à cet impact-là sur l'ensemble d'un secteur? Est-ce que ça pourrait du coup être une réponse à la question qu'on pose ce soir?
Vous êtes journaliste, l'antenne de France Culture n'est pas militant non plus. Nous, vraiment, avec France 2, évidemment, la programmation avec France 2, c'était une évidence. Il fallait diffuser cette enquête au moment où il y a le débat sur les amendements de la loi travail. Mais nous, on n'est absolument pas militant pour faire changer les boîtes. On a enquêté, on a trouvé des choses extrêmement graves. Et si on décide d'aller à l'antenne, c'est-à-dire si on décide de dire à France 2, nous sommes prêts, si Élise Lucet prend contact avec nos rédacteurs en chef, avec la direction de la communication de Lidl, puis ensuite de Free, c'est parce qu'on estime avoir tellement d'éléments extrêmement graves qu'il est très important de leur donner la parole. Si, effectivement, l'impact est énorme. C'est-à-dire que cette enquête, ce soir-là, c'est rare pour un documentaire, hein, mais France 2 est largement devant les autres chaînes. Le documentaire est regardé par plus de 3,5 millions de téléspectateurs le premier soir. Et puis, avec tous les différents replays, on arrive à plus de 5 millions aujourd'hui. Donc oui, on en parle à la machine à café le lendemain parce que je crains, malheureusement, cette enquête parle à tout le monde.
Ils n'ont pas eu de bol, Lidl, que ça tombe sur eux, Arnaud Dupuis-Cascarès?
Non, alors je dirais pas ça. Parce que je voudrais qu'on évite de tomber dans un travers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser croire. Il y a des enquêtes journalistiques qui sont très sérieuses, avec des mises en cause sur des pratiques qui sont incorrectes, non éthiques, illégales, etc. Mais enfin, c'est quand même.
Et d'ailleurs, Lidl ne conteste pas.
Hein, non, du tout. On a un communiqué de la part de Lidl, oui, dès le lendemain, mais qui ne conteste absolument rien de ce qui est dans l'enquête.
C'est quand même pas la généralité des cas. C'est-à-dire que nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, eux-mêmes, leurs familles, travaillent dans des entreprises, et les gens qui travaillent dans des entreprises ne sont pas tous des tortionnaires et des bourreaux. Donc il faut quand même avoir ça en tête, c'est qu'il peut y avoir à un moment donné un problème dans une entreprise qui est dénoncé par une enquête journalistique, et c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que tous les salariés de l'entreprise sont complices de ce qui s'y passe, et ça ne veut pas dire que tous les salariés du secteur et toutes les entreprises du secteur le sont aussi. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, on parle de bon ou de bad buzz, mais il y a aussi des faux buzz. Et ça, il y en a beaucoup. Donc il y a les enquêtes journalistiques, c'est une chose, et c'est très bien encore une fois, mais il y a aussi beaucoup de bad buzz qui ne sont pas forcément tout à fait légitimes.
Benoît Brun.
Oui, moi je voudrais rajouter deux choses. C'est que cette histoire de Lidl n'arrive pas par hasard. Moi je ne crois pas au hasard. Il se trouve qu'en ce moment il y a les états généraux de l'alimentation.
C'est un hasard en tout cas en termes de programmation.
Non, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que.
Pour être piloté par un concurrent.
Je sais pas ce que je veux dire, mais
on est dans un contexte qui favorise peut-être le fait qu'on s'intéresse davantage peut-être à ce genre d'enquête.
Ce que je veux dire, c'est que la souffrance au travail est un vrai problème qu'on trouve dans tous les secteurs et malheureusement pas uniquement dans le secteur de la grande distribution. Mais il se trouve qu'en ce moment, on a les états généraux de l'alimentation. L'une des principales problématiques, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir relever le prix des produits alimentaires pour justement redonner de la valeur économique aux agriculteurs. Donc, ce qu'occulte en fait toutes les marques d'enseigne. C'est le fait que depuis 10 ans, enfin depuis le vote de la loi de modernisation économique, eh bien, il y a une destruction de valeur économique, donc il y a une destruction d'emplois. Donc effectivement, le fait qu'on focalise sur des problèmes de souffrance au travail ponctuels, qui sont certes tragiques, mais malheureusement qui sont légion, ça permet aussi d'occulter un phénomène qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus d'ampleur, parce qu'on va détruire de l'emploi à terme. Deuxième chose, j'ai beaucoup aimé votre référence à la culture américaine, any press is good press. Il faut savoir une chose quand même, et ça je pense que c'est une déviation de la culture digitale, c'est que cette phrase en fait vient d'une phrase d'Hitler, hein, qui disait peu importe ce qu'on dit de moi, ce qui est important c'est qu'on parle de moi. Et je pense que certaines marques ont une tendance à s'enferrer dans l'hitlérisme qui consiste à faire parler de soi en faisant fi du contenu. Et je pense qu'en fait une grande marque, c'est une marque qui a à la fois de l'impact, donc qui fait parler d'elle, mais cet impact n'a aucun sens si c'est pas adossé à du contenu. Et le contenu est lié forcément à des pratiques qui doivent être exemplaires.
Alors, la phrase d'origine est d'Oscar Wilde, et donc je ne savais pas qu'Hitler s'était inspiré d'Oscar Wilde.
Je vais vous soumettre une autre réaction, enfin qui prend la forme d'une campagne de publicité pour un thème, une problématique qui est finalement assez proche, qui est là aussi sur les conditions de travail. On est dans le domaine des taxis, des VTC, et c'est Uber qui communique actuellement dans les salles de cinéma.
Les routes. Chaque jour, nous prenons des milliers de routes différentes. Des bonnes, des mauvaises, des risquées. Nous sommes allés dans des endroits magnifiques, comme hostiles. Même là où aucune route n'existait encore. Nous avons toujours voulu aller plus loin. Mais nous sommes parfois allés trop vite. Et nous n'avons pas toujours su écouter. Mais chaque nouveau trajet est une leçon. Il faut avoir tort. Se perdre. Revenir en arrière.
Alors, on ne va pas faire trop d'emplois de publicité gratuite pour Uber, mais Arnaud Dupuis, Cassier, est-ce qu'on entend, puis les images qu'on voit en même temps qu'il y a ces formules, c'est notamment des images de manifestations, des taxis parisiens contre les VTC. On est dans un choix de communication où on plaide coupable, on dit voilà, on a fait énormément d'erreurs. Est-ce que c'est aujourd'hui un mode de communication qui vous paraît pertinent et qui, on pense un petit peu finalement à ce qui se fait aux États-Unis avec les politiques. C'est-à-dire, voilà, j'ai fauté, je m'excuse, je ne le referai plus.
Mais vous avez fait la synthèse du sujet. C'est effectivement une tendance qui vient des États-Unis. Effectivement, les politiques ont probablement été les premiers à le faire. Non, il y a aussi derrière ça la volonté de prendre en considération, au sens littéral du terme, les clients. C'est-à-dire de considérer à un moment donné que les clients ne sont pas plus idiots que d'autres et que donc il faut intégrer cette dimension-là. Et là,
c'est vraiment aux clients que ça s'adresse, ça, parce que les clients, ils n'en manquent pas. Chez Uber, est-ce que c'est pas davantage peut-être aux autorités, parce qu'on sait bien qu'il y a des problèmes
ça parle
qui sont
à tout
liés
le monde, ça parle à tout le monde, mais il y a un moment donné, si l'image d'une entreprise, son image corporate, comme on disait tout à l'heure, est vraiment très dégradée, elle va avoir un impact sur la fréquentation de la clientèle, et donc les clients vont se détourner, donc elle est obligée de prendre en compte, et là on est dans une technique de judo, c'est-à-dire on sait qu'on nous accuse de ça et on répond à ça, mais dans le fond on le fait depuis déjà 2 décennies au moins sur des sujets de crise, là ils le font sans attendre une crise majeure, mais c'est une crise, ce que l'on appelle une crise de basse intensité. C'est-à-dire, contre Uber, il y a un sujet de basse intensité. Et d'ailleurs, Uber en est très conscient. Leur licence à Londres a été annulée, donc ils ne peuvent plus travailler à Londres. Donc ils sont exposés à un risque majeur s'ils laissent se propager cette idée qu'ils exploitent et qu'ils détournent les règles.
Luc Herrmann, vous vous êtes intéressé aux stratèges de la communication, hein, dans les documentaires que j'évoquais en début d'émission. Le mea culpa, ça fait justement partie aujourd'hui des outils qui sont promus, que ce soit dans la communication. Le stratège de la communication, c'était à la fois par rapport aux entreprises et puis par rapport aux politiques.
Hein. Et aux politiques, oui. 2 documentaires. Et puis un livre aussi, que vous pouvez toujours retrouver chez La Martinière. Toute la petite opération s'appelait Jeu d'influence, où j'avais rencontré de très nombreux communicants. C'est à cette occasion que j'avais été interviewé Arnaud Dupuis-Casterès. Dans le cas d'Uber, ils le font vraiment très tard. Ils ont toujours eu une communication extrêmement arrogante. Ils ont des lobbyistes plutôt bien placés dans les différents ministères en Europe, aux États-Unis, dans les grandes capitales dans lesquelles ils travaillent. Mais là, il y a une urgence absolue parce que la boîte a réellement une mauvaise image, avec effectivement de nombreuses manifestations dans la rue. Et puis, je trouve qu'ils réagissent vraiment très tard. J'ai toujours trouvé qu'ils étaient très arrogants. Je les ai vus plusieurs fois au téléphone. Très arrogants parce qu'à nouveau, leurs impôts ne sont pas vraiment payés dans les pays dans lesquels ils travaillent. Aussi, beaucoup d'optimisation fiscale, certes légale, mais absolument pas morale. Et puis, vous le savez, sur les les contrats de travail des chauffeurs qui ont amené à des crises majeures avec les taxis. Donc,
et justement, quand on voit cette pluie, finalement, on doute un petit peu de la sincérité du message, parce que connaissant les méthodes qui sont celles d'Uber, qui sont assez agressives pour s'emparer du marché des taxis, dit voilà, ce message-là ne correspond pas forcément aux pratiques. Est-ce que Benoît Elbrun, quand il y a cette peut-être dissociation entre les pratiques d'un côté et le message, c'est que le message est mauvais et que la réponse est mauvaise?
Je ne sais pas si la réponse est mauvaise. Mon camarade parle de judo, moi je parle plutôt de judéo-chrétien, parce que finalement, sur quoi s'appuie-t-on?
On s'appuie, je savais que ce soir on aurait des bonnes punchlines.
Mais on s'appuie finalement sur ce qu'on appelle un consumer insight, c'est-à-dire en gros le problème du client que je veux résoudre, qui est un insight universel, qui a inventé cette grande multinationale qui est l'Église, qui est la culpabilité. La société de consommation s'appuie essentiellement sur un problème de culpabilité. Donc effectivement, si je fais un mea culpa, je sais forcément que ça va avoir un impact. Par contre, vous avez lâché le mot, je pense, important, c'est le mot de sincérité. Je pense que les marques vont être confrontées dans les 20 prochaines années à deux questions essentielles. La première, c'est l'utilité sociale. Qu'est-ce que j'apporte aux sociétés? Qu'est-ce que j'apporte aux individus dans leur vie concrète et quotidienne? Et puis deuxièmement, c'est la sincérité, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne peux pas mentir, puisque je suis dans une relation, dans un contrat de confiance, comme le dit Darty, qui est la meilleure définition de la marque, mais sachant que contrat de confiance, c'est un oxymore. Hein. Quand il y a contrat, c'est qu'il n'y a pas confiance.
Pourquoi je ne peux pas mentir? Parce que les journalistes derrière vont aller vérifier.
Je ne peux pas mentir parce que une marque, c'est une relation qui s'appuie sur une promesse. Donc je m'engage à faire quelque chose parce que j'ai des compétences. Et si la performance, c'est-à-dire que si je ne délivre pas ce que j'ai promis, eh ben il y aura forcément une sanction négative.
Luc Herman, suite à Cash Investigation, donc Lidl a fait un communiqué en disant, ben voilà, effectivement, il y a des problèmes et on va faire des efforts, on en a déjà fait pour améliorer les choses. Est-ce que vous vous dites, par exemple, à Cash Investigation, on va essayer d'exercer notre droit de suite et vérifier que les engagements qui sont pris aujourd'hui, même s'ils ne sont pas très concrets, seront tenus?
On va le faire, et sauf qu'avec France 2, on a créé une petite déclinaison de Cash Investigation, qui n'est pas une petite d'ailleurs, qui sont vraiment des numéros de Cash, qu'on appelle Cash Impact. On l'a fait deux fois déjà, une fois sur les Panama Papers, sur l'énorme vaste enquête mondiale sur la fiscalité internationale et la fraude fiscale de très grandes entreprises. Et puis on l'a fait sur le diesel. Vous parliez tout à l'heure du cas de Volkswagen. Il se trouve qu'il y a une dizaine de jours, vous retrouverez ce numéro de Cash Impact très facilement également sur le site de France 2. On est revenu sur l'énorme scandale du Dieselgate.
Et avec un constat.
Avec un constat qu'il y a deux instructions très dures en ce moment. Très poussé en France contre Renault et contre Peugeot, et on a sorti de nouvelles informations, de nouveaux chiffres sur la non-efficacité, pour le dire gentiment, des filtres à particules sur les différentes voitures diesel de Renault et de Peugeot. Et donc voilà, on a exercé notre droit de suite, ce que font de très nombreux journalistes. Je pense qu'on le doit aux citoyens, c'est-à-dire que c'est une émission très citoyenne, Cache Investigation. Et à nouveau, merci au service public de nous exposer à une heure de grande écoute. Hein. C'est pour ça que l'impact est énorme, et c'est pour ça que les spin doctors derrière ont peut-être du travail. C'est que voilà, quand on lance une grande enquête, elle va être beaucoup regardée et notamment beaucoup sur le service public.
Arnaud Dupuis-Castiérès, est-ce que l'environnement médiatique dans lequel on évolue aujourd'hui, avec des magazines d'investigation qui n'étaient pas si nombreux il y a quelques années que ça, et en plus de ça, l'impact des réseaux sociaux, d'Internet, avec des citoyens qui sont souvent très, très avertis, est-ce que ça oblige du coup les entreprises? Ça leur interdit le mensonge, ou bien est-ce qu'on peut quand même continuer à mentir, ou en tout cas à dissimuler? Est-ce que vous leur conseillez systématiquement de dire toute la vérité, rien que la vérité?
Alors, oula, il y a beaucoup de questions dans votre question. D'abord, je récuse le fait que systématiquement les entreprises, par définition, mentent.
Ah, bien sûr, c'est pas ce que je dis. Hein.
Oui, non, mais il faut quand même bien le préciser.
J'espère, en tout cas.
Parce que... pour ceux qui connaissent mal les entreprises, c'est quand même pas du tout la règle du genre. Hein. Deux, on considère qu'effectivement, il y a une règle à ne pas transgresser, c'est le mensonge, justement, surtout dans la gestion de crise. Alors qu'il y ait eu des problèmes à un moment donné, soit, admettons, ça peut arriver, mais ensuite, il faut surtout pas mentir. Ça, c'est une règle absolue, parce que il y a toujours un journaliste qui donne un droit de suite à une enquête et qui vérifie si ce que l'on a dit était vrai. Et
là, il peut y avoir du mensonge par omission.
Mais vous savez, en réalité, quand les problèmes naissent souvent de difficultés de compréhension de l'environnement et du contexte dont vous parliez. Je travaille pas pour les constructeurs automobiles, mais le problème des normes qui sont imposées, si on écoute, parce qu'il faut aussi écouter toutes les parties prenantes, c'est que les normes qui étaient imposées et qui étaient définies par l'administration n'étaient pas atteignables par, technologiquement par les constructeurs. Donc ils ont contourné une règle qui n'était pas atteignable.
En faisant des arguments de vente quand même.
En en faisant des arguments de vente, mais la preuve, on l'a dit tout à l'heure, ça n'a aucun impact sur les ventes, parce qu'en réalité, ça c'est un enseignement de ce genre de crise, on peut, et là j'avance sur la pointe des pieds parce que j'ai pas les données, mais s'il n'y a pas d'impact sur les ventes, on peut se poser la question de savoir si c'était vraiment une promesse reçue par le consommateur de la marque. Est-ce que c'était une attente vraiment? On a aussi, vous savez, les chiffres de consommation. Toutes les pubs de voitures vous donnent le chiffre moyen de la consommation. Est-ce que ces chiffres correspondent à la vérité? Qui les vérifie? Est-ce que quand vous achetez une voiture un an après, vous vérifiez que la pub de la voiture que vous avez achetée un an avant annonçait bien la consommation aux 100
km, etc. Vraiment, il y a toute une procédure aux États-Unis. Volkswagen a reconnu avoir truqué ses voitures.
Ils ont truqué. Ils ont truqué. Mais ils expliquaient que c'est parce que technologiquement, ils n'arrivaient pas à atteindre la norme qui avait été fixée. Bon, ce que je veux dire par là,
et on parle de santé publique aussi, pour être très sérieux sur le diesel aussi, voilà, c'est une essence. Ce que je veux dire par là, c'est toxique.
Les entreprises ne mentent pas systématiquement et donc elles sont pas dans le fait de cacher. Deuxième point dans votre question qui est très important, c'est le rôle des réseaux sociaux. Donc oui, et là ça a deux conséquences. Oui, il y a une démultiplication et une accélération très forte. Et donc une amplitude des crises qui est très très forte. Et tout le monde est touché très vite. Si on regarde pas Cash Investigation, on n'a pas l'accès à l'information. Mais maintenant, on regarde Cash Investigation, mais il y a d'autant plus d'impact que c'est relayé sur les réseaux sociaux, qu'on le trouve en replay, etc. Donc ça vit. Bon. Et la troisième chose, c'est que y a, du coup, la conséquence, c'est qu'il y a moins de contrôle. Ça va plus vite et il y a moins de contrôle. Donc il y a des informations, je ne parle pas de Cash Investigation et d'un certain nombre de médias qui font sérieusement leur travail, mais il y a des bad buzz où il n'y a plus de vérification sur les informations. Et la quatrième conséquence, et je vais faire très vite, c'est de se dire que tout ça va tellement plus vite que les très mauvaises crises sont plus vite oubliées.
Benoît Lebrun.
Oui, moi je voudrais me départir un peu de cette vision angélique, parce que là on touche à une question philosophique du marketing. Qu'est-ce que c'est le marketing? C'est pas le rapport à la vérité, c'est le rapport à la véracité. Et ça change tout. C'est-à-dire que c'est faire croire que c'est vrai. Quand Coca me dit the real thing, c'est-à-dire je te fais croire que c'est la vraie chose. Mais c'est la vraie chose, c'est une réalité qui a été construite. Bon, les émissions d'investigation, c'est intéressant, ça glorifie le consommateur. Mais il faut pas oublier que ça véhicule une théorie du complot, puisque c'est toujours la même rhétorique. C'est-à-dire, en gros, le pauvre petit consommateur qui est flouté et les grandes entreprises qui mentent et qui trichent. Bon, moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait aussi des émissions qui montrent les contributions sociales des entreprises et des marques. Là, on est toujours dans une théorie, une idéologie qui est complètement asymétrique. Donc, il valorise sur le consommateur parce qu'on avance en caméra cachée. C'est toujours du caché, sous-entendu, pauvre petit, on te cache la vérité. Mais il n'y a pas de vérité, puisqu'on
vous
est dans la véracité. Vous avez
vu Cash Investigation ou pas? Vous regardez?
Non, celui-ci, je l'ai pas vu.
Oui, parce qu'il n'y a pas de caméra cachée. Il y a une petite séquence en caméra cachée, mais elle est extrêmement rare. Moi, je veux défendre notre profession et je ne suis absolument pas d'accord avec vous sur le côté théorie du complot. Évidemment, on ne va pas parler d'un train qui arrive à l'heure. Il y a peu de magazines d'investigation. Il y a une bonne investigation, une grande tradition d'investigation dans la presse hebdomadaire, dans la presse quotidienne, dans des sites comme Mediapart. Sincèrement, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas militants et quand on décide de s'attaquer, vous voyez, je l'ai dit moi-même, à une thématique et d'aller jusqu'au bout, vraiment, on part pas, je suis chef d'entreprise moi-même, voilà, c'est une petite entreprise, on n'est pas du tout anti-entreprise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces grandes entreprises que vous venez de citer, hein, Lidl, Uber, nous, journalistes, on ne peut pas avoir accès aux dirigeants sans être confrontés à des spin doctors. Certains sont très honnêtes, d'autres le sont moins, certains sont très bons et protègent à coup de vraiment de contrats importants, protègent ces grands patrons comme ils protègent les grands ministres également.
Mais plus il va y avoir de cash investigation, plus on peut imaginer quand même qu'ils vont être protégés, parce que vu ce qui arrive à ce dirigeant de Lidl dans un dernier numéro, déjà
on lui laisse la parole très longtemps, oui. Hein, l'interview est menée en toute loyauté.
Oui, mais on se dit déjà pourquoi il accepte alors qu'il sait quand même que
normalement c'est vraiment les missions. Je vais vous dire pourquoi il accepte, parce qu'on met énormément énormément d'énergie pour ne pas avoir de chaises vides dans les documentaires. C'est dommage. Après, au bout d'un an d'enquête, on peut pas se satisfaire d'un communiqué de presse ou d'une entreprise qui refuse de répondre aux questions. Donc non, on organise des interviews très longues à plusieurs caméras. On maquille les personnages qu'on vient interviewer aussi, enfin pour vraiment le faire dans des bonnes conditions de télévision, pour les mettre également à l'aise. Ah non, il faut qu'ils parlent. Non. Ils le doivent à leurs consommateurs. Je pense qu'ils le doivent aux téléspectateurs ou aux lecteurs des publications qui lisent les enquêtes.
D'ailleurs, dans Stratégie, il y a quelques jours de ça, il y a eu un article qui s'intitule « Comment répondre à Élise Lucet ?» Voilà, ce sont des conseils qui sont donnés à des chefs d'entreprise.
Je sais pas qui l'a écrit, ce journaliste, mais en tout cas, voilà, en gros, écoutez, pas de chaise vide, quoi, parler, quoi, c'est ça, voilà.
Ouais. Emmanuel Gavard, il s'appelle Emmanuel Gavard, c'est dans Stratégie.
Vous évoquiez le dialogue, dit-il.
Vous évoquiez, Arnaud Dupuy-Castéres, la diffusion, la viralité de certaines crises qui peuvent, alors, viralité qui, ça répond très très vite et en même temps ça s'oublie aussi très vite. Est-ce que c'est toujours le cas? Troisième cas d'espèce pour essayer d'évoquer toutes les marques qu'on a citées dans le titre. Il y a eu Lidl, il y a eu Uber et il y a Nutella.
Nous avons à préparer la troisième révolution industrielle qui sera à la fois climatique, qui sera numérique, qui sera énergétique. Et par exemple, il faut replanter massivement des arbres parce qu'il y a eu une élimination, une déforestation massive qui entraîne aussi du réchauffement climatique. Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que ça, c'est l'huile de palme.
Ah, c'est bon, Nutella.
Oui, mais il faut pas, voilà, parce que c'est l'huile de palme qui a remplacé les arbres. Et donc, il y a eu des dégâts considérables.
Vous pouvez faire couler toute une boîte en disant qu'il ne faut pas manger de Nutella.
Eh bien, il faut qu'ils utilisent d'autres matières premières.
Voilà, c'était Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie, en 2015, dans le petit journal de Yann Barthès. Alors, quelques jours après, elle s'excuse parce que ça a fait tout un foin en Italie. La maison mère de Nutella, c'est Ferrero. Il y a même le gouvernement italien. On avait dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé raconter? Donc, elle s'est excusée sur Twitter. 1000 excuses pour la polémique sur le Nutella. Mais une fois que ce genre de polémique est lancé, Arnaud Dupuy-Castéres, est-ce que de manière, c'est un peu trop tard déjà pour réagir ou comment...
Non, d'abord, c'est jamais trop tard pour agir. Évidemment, il vaut mieux éviter ce genre de dérapage. Quand une entreprise est citée, elle est citée. Et donc, tout d'un coup, il y a un maelstrom médiatique qui se met en route. J'invite au passage Luc Herman et Cache Investigation à faire un numéro spécial sur ce qu'a pu raconter Ségolène Royal quand elle était ministre. Et le nombre d'âneries qu'elle a dit... qu'elle a dû démentir ou sur lesquelles elle a été démentie à travers un certain nombre d'enquêtes. Je pense que vous pouvez faire un tome 1 et un tome 2 en compilant les mensonges et les bobards qu'elle a pu raconter.
Donc ah oui, ça... Vous ne partirez pas les mains vides du Carman, vous avez
des idées. Voilà une idée, une suggestion. Dans ce cas-là, l'entreprise est contrainte à un moment donné à une crise. Le point qui est particulier dans l'exemple de Nutella, c'est qu'il y a, là aussi une basse intensité de la problématique et du sujet, d'abord qui n'est pas que française, ensuite qui est de très long terme, c'est-à-dire que si elle en parle, c'est parce que le sujet existe depuis des années, et animé par un certain nombre de gens, d'associations, de consommateurs,
qui font le constat que pour qu'il y ait de l'huile de palme, etc. Il faut planter des palmiers, pour planter des palmiers, il y a de la déforestation.
Exactement.
Et donc ça modifie l'écosystème.
Vous avez un sujet qui existe depuis des années. Donc ça, c'est une thématique, et donc l'entreprise ne découvre pas la problématique quand Ségolène Royal s'exprime. C'est pas vrai du tout. Il y a une mini-crise à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, vous l'avez très bien dit vous-même, le ministre est obligé de s'excuser quelques jours après. C'est pas parce que ça a fait des problèmes en Italie, diplomatiques avec l'Italie, parce que Nutella et la marque Ferrero, enfin l'entreprise Ferrero n'a pas attendu Ségolène Royal pour connaître le sujet. Il y a en revanche des buzz dont je parlais tout à l'heure, comme Dove, qui est un buzz actuel qui vient de se passer.
Alors expliquez-nous en deux mots de quoi il s'agit.
C'est quand même un truc incroyable. C'est une entreprise qui a fait un spot publicitaire qui...
Et du savon et du shampoing. Hein.
Du savon et du shampoing. Qui a été monté par une blogueuse de New York et suivie par 60 000 followers sur Facebook et sur Twitter, et qui a fait un montage de ce film publicitaire pour en faire un abstract. Et ça a été diffusé et ça a été critiqué comme étant un film raciste. Et ça a été
quand on voit une jeune femme noire qui fait mine d'enlever son pull, et finalement elle enlève sa peau et sa peau devient blanche.
D'accord. Voilà. Exactement. Et ça, c'est le montage qui est fait par une blogueuse new-yorkaise. Tout le monde s'est emparé de ce truc. Ça fait un buzz incroyable, un bad buzz incroyable sur les réseaux sociaux. Ça a été repris par des médias non réseaux sociaux, des médias offline, et qui ont fini par aller voir le spot vidéo. Spot vidéo que la marque Dove a retiré, évidemment, de tout accès réseaux sociaux, site internet, en s'excusant. Du coup, plus personne ne pouvait voir le vrai spot, et un certain nombre de journalistes ont bien fait leur travail. Ils ont été voir le vrai spot, et en regardant le vrai spot dans son entièreté, il n'y avait strictement rien de connotation raciste. C'est l'interprétation d'une blogueuse qui a fait ça. Et ça, ça pose un vrai problème. Parce que là, on est dans la fake news. Et on mélange tout. Et les réseaux sociaux et les médias, tout se mélange. Et là, on n'est plus dans la vérité. On est dans une forme de véracité, pour reprendre cette thématique. Ouais. On attaque une marque parce qu'elle avait déjà eu des problèmes, d'ailleurs, quelques années avant. Et du coup, la crise s'enflamme alors qu'il n'y a pas de sujet.
Benoît Elbrun, est-ce que ces affaires-là, justement, alors Nutella, Dove, qui ne sont pas dans le même registre, mais elles ne témoignent pas d'un même phénomène? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évoquait par exemple tout à l'heure la question des produits alimentaires, avec les risques sanitaires qui peuvent exister, mais est-ce que ça ne va pas au-delà aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas de plus en plus sur des questions éthiques? Je pense à l'alimentaire notamment, parce qu'on n'est pas seulement pour la crainte que certains produits soient nocifs, mais aussi la condition animale, par exemple, aujourd'hui, qui intervient de plus en plus aussi dans la communication des marques.
Oui, alors effectivement, on va regarder la valeur étendue des produits, on va replacer la marque dans un écosystème. Bon, ça, c'est évidemment quelque chose qui est fondamental. Mais je veux dire, la question éthique, c'est pas de savoir s'il y a de l'huile de palme dans le Nutella. Les Français font semblant de découvrir qu'il y a du grain dans le Nutella. Oui, il y a un petit peu de noisette, un peu de chocolat et du grain et du sucre. Bon,
Ce qui est problématique.
Si, c'est quand même l'impact que ça a,
non,
justement.
Non, ce qui est problématique, à mon sens, c'est de laisser une marque dire qu'une marque qui a autant de gras et autant de sucre, produit un petit déjeuner équilibré pour les enfants. Ça, c'est absolument scandaleux. Je veux dire, l'huile de palme, c'est un autre problème, mais qui, à mon avis, qui est beaucoup moins grave. Après, ce qui concerne Dove, c'est encore une fois cette question de la véracité. Qui a l'autorité, hein? Je rappelle que la marque, c'est une structure d'autorité, c'est-à-dire c'est Auctoritas, l'auteur. Est-ce que je suis auteur de ce que je raconte? Donc, c'est la question qui croire. Donc, effectivement, si une marque fait une campagne de pub, honnêtement, qui n'est pas terrible, et se fait déposséder de sa parole par une blogueuse, c'est qu'il y a un problème dans l'équipe marketing de chez Unilever, à mon avis.
Lucarman.
Un tout petit mot sur Nutella, parce qu'il se trouve que je les ai interviewés il y a assez longtemps. J'avais fait une longue enquête il y a une dizaine d'années. Donc, les représentants de Ferrero en France, qui est vraiment un très gros groupe agroalimentaire, m'ont vraiment dit devant la caméra, et c'était extrêmement sincère. On dit, mais ces produits, notamment le Nutella, sont des produits à manger avec modération. Et je dis, mais c'est pas ce qu'on voit dans vos publicités. Dans vos publicités, vous nous vendez cela comme un produit qu'on l'on peut donner en encas à 10 heures, en petit déjeuner, en encas à 10 heures, et ensuite au goûter à nos enfants. Et c'est Ségolène Royal, elle a pas totalement tort dans ce qu'elle dit. Elle est obligée de s'excuser parce qu'elle a effectivement ciblé assez violemment une marque, mais factuellement, elle a raison.
Elle parle comme une mère de famille.
Et factuellement, elle a raison. Oui. Cette utilisation à l'extrême d'huile de palme pour des questions de coût, hein, parce que c'est une huile qui coûte vraiment moins cher et qui tient beaucoup mieux la fabrication industrielle, et bien c'est une huile qui est produite dans de très mauvaises conditions, notamment en Asie du Sud-Est, et qui crée de réels problèmes de déforestation.
Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui mériterait une émission en tant que telle, donc je l'ai fait à dessein, mais qui est aussi dans l'actualité, sur les Monsanto Papers, où une enquête du Monde révèle qu'il y a des scientifiques qui ont été rémunérés par Monsanto et qui ont publié des articles sur l'innocuité du glyphosate. Le glyphosate qui est un produit présent dans le produit phare de Monsanto, à savoir le Roundup. Est-ce que ça, Arnaud Dupuy-Castérès, du point de vue de l'entreprise, c'est de la bonne communication?
Alors, concernant Monsanto, la bonne communication, c'est un oxymore, je pense, et concernant la bonne réputation aussi. Donc, c'est une entreprise qui, depuis 20 ans, a une très mauvaise réputation. Donc, tout ce qui lui arrive ne peut pas vraiment améliorer les choses. Non, je pense que, à un moment donné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si une entreprise a quelque chose à se reprocher, il est normal que ça sorte. Et il est normal que les journalistes fassent leur travail d'investigation. C'est le point, et dans les révélations du Monde, il semblerait quand même que tout ça soit très étayé, et que donc c'est normal que ça sorte, parce que les comportements déviants ne sont pas admissibles. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas généraliser.
Mais néanmoins,
les
conflits d'intérêts et les stratégies des lobbyistes sont pour moi le principal poison de l'économie des marques, contre lequel il faut absolument se battre avec des règles extrêmement claires. On voit notamment, par exemple, le lobby de l'industrie du sucre qui a réussi à faire croire que le gras était mauvais pour la santé, alors qu'on sait que le sucre est encore plus mauvais pour la santé. Et je veux dire, ça, c'est une affaire qui va sortir bientôt, qui va faire très 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 mal à beaucoup de marques, hein, et à toute la filière.
Luc Herman.
Et dans le cas de Monsanto, très rapidement, parce qu'on a beaucoup enquêté, notamment une enquête de mon associé Paul Morera pour Canal+. Il se trouve que Monsanto est une entreprise qui ne communique pas. Ils ont très bon lobbyiste en sous-main. Et là, l'enquête du Monde est absolument remarquable avec ces Panama Papers qui sont sortis lors d'une procédure judiciaire aux États-Unis. Et c'est factuel. Effectivement, cette multinationale a payé pour de faux rapports.
J'évoquais au tout début d'émission cette formule de Lidl, patron, on est mal, qui semble aujourd'hui un peu se retourner contre l'entreprise. Juste d'un mot, Arnaud Dupuis-Castéres. Lidl vous appelle, vous demande s'ils doivent conserver ou pas cette formule dans leur prochaine campagne. Vous leur diriez quoi? Oui, il vaut mieux la supprimer.
Je pense qu'il vaut mieux la supprimer.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Donc Arnaud Dupuis-Castéres, Luc Herman et Benoît Helbrin. Discussion que vous pouvez retrouver sur cette belle marque qui est franceculture.fr, notre site internet. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Anthony Thomasson. Dans quelques petites minutes, vous retrouverez Arnaud Laporte pour la dispute. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 18h20 avec la question suivante. Bachar al-Assad a-t-il gagné la guerre ?